Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Bienvenue à vous, les vraies voix sur Sud Radio, de l'actualité, des débats, les vraies voix, c'est, vous connaissez, hein, c'est jusqu'à 19h. Et c'est avec le magistrat honoraire Philippe Bilger qui est avec nous ce soir, avec Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel.
Bonsoir.
Bonsoir Caroline.
Bonjour,
Michel
Caroline.
Pouzol. Bonsoir Philippe, Michel Pouzol est arrivé, ancien député porte-parole du mouvement Génération.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir à vous, tout le monde est là,
salut,
je suis ravi
Michel.
De vous retrouver. Bonsoir
salut,
Philippe. Bonsoir à vous qui nous écoutez. Tiens, il y a 40 ans, Philippe Bilger, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans, mon cher Philippe ? Alors évidemment, à part la victoire de François Mitterrand, on en a beaucoup parlé hier, je vais vous le dire, il y a 40 ans, le 11 mai 1981, Bob Marley nous quittait.
Get up, stand up, stand up for your right.
Alors quand on passe du Bob Marley, on a le choix. Hein, voilà.
Philippe,
j'allais vous appeler Bob. Oui,
de
Philippe.
Malheur.
De malheur. Vous parlez de François Mitterrand, vous incluez François Mitterrand
voilà.
dedans.
Voilà.
D'accord. Bon, bah, Michel Pouzol, non, Michel Pouzol
ne
réagit pas.
Je veux déjà titiller Michel.
Ben oui.
C'est scandaleux.
Je ne réagis pas aux provocations faciles.
Oui, oui. C'est fou de provoquer comme ça dès le début de l'émission. Non, mais c'est bien,
non,
Philippe, c'est bien, vous avez raison.
J'ai travaillé,
mais
j'ai,
calmer,
j'ai
Philippe,
retrouvé
Philippe,
des vieux attends. Dossiers, Philippe Bilger. Faites attention, j'ai retrouvé des vieux dossiers.
Bon.
Sur vous.
Règlement
mieux,
de compte à Sud Radio. Hein.
Alors,
quand on pense.
Je vais me calmer maintenant.
À cet artiste, on pense évidemment en musique, exactement. Et petits produits illicites, quand même, soyons clairs.
Alors, oui, c'est sûr que oui, c'est vrai que Bob Marley ne fumait pas que du tabac. Ça, c'est sûr. Il était même connu pour sa mort à 36 ans d'un cancer. Plus de 500 livres ont été consacrés à Bob Marley. Alors, figurez-vous que sa dernière histoire d'amour a été révélée par le Figaro. Il vivait une belle histoire avec la fille d'Omar Bongo, voilà, vers la fin de sa vie. Bob Marley, 40 ans que cet artiste jamaïcain nous a quittés. Voilà, on voulait lui rendre hommage
en tout cas,
ce soir.
En tout cas, un homme qui a fortement influencé la musique au niveau mondial.
C'est vrai, c'est vrai.
Qui a donné un focus sur la Jamaïque qu'on n'attendait pas du tout.
C'est vrai.
Il y a des gens comme ça qu'on s'étonne de ça, mais qui comptent dans l'histoire même de l'humanité.
Ouais.
Et il en fait partie, Bob Marley,
mais
avec un message de fraternité.
Ouais, exactement, et qui traverse les générations.
Qui ferait du bien en aujourd'hui.
C'est vrai. Et quand on veut choisir des morceaux d'un artiste et quand on c'est pas quoi choisir, lequel on va mettre, quel morceau on va passer, c'est plutôt bon signe, voilà.
Moi j'aime beaucoup No Woman No Cry.
A fait beaucoup
No
de
Woman No,
no
Cry,
bien sûr.
Évidemment. Ben voilà.
Merci Jamel.
Très facile à jouer à la guitare d'ailleurs. Ceux qui veulent commencer la guitare, pour les débutants, c'est très facile cette chanson. No Woman No Cry. Allez, les débats des vraies voix, notre premier débat dans quelques minutes. Tout autre chose, les élections départementales et une candidate voilée du canton de Montpellier qui embarrasse La République En Marche, une candidate voilée sur une affiche de campagne avec pour slogan « Différents mais unis pour vous ». Soit ces candidats changent leurs photos, soit La République En Marche leur retira leur soutien. Voilà ce qu'a tweeté Stanislas Guérini, le patron de l'AREM. Une prise de position qui divise au sein de la majorité. Le député de la Vienne, par exemple, Sacha Ollier, a exprimé son profond désaccord. Une candidate voilée au départemental. Tiens, est-ce que ça vous choque ? Est-ce que Stanislas Guérini a raison de ne pas la soutenir ? Vous votez sur Twitter et YouTube. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ? J'attends vos réactions. 0826 300 300. Et puis, le grand débat des vraies voix à 18h30. Jean Castex, le Premier ministre, qui annonce un durcissement des peines pour les agresseurs des forces de l'ordre. De son côté, eh bien, Gérald Darmanin propose de supprimer les rappels à la loi. Est-ce que ces mesures seront efficaces ? Voilà. Est-ce que c'est utile de durcir la loi pour les agresseurs de policiers? Est-ce qu'elles vont suffire selon vous? Venez en discuter avec les vraies voix, là encore. Un seul numéro et c'est Mélodie aujourd'hui qui vous attend au standard. 0826 300 300. On passe tout de suite au tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Et donc, le pass sanitaire validé par l'Assemblée nationale. Un pass sanitaire, évidemment, un passeport sanitaire pour voyager, mais également pour accéder à de grands événements. Voilà, l'opposition était contre. Finalement, ça a été validé. Est-ce que c'est nécessaire, ce pass sanitaire ? Alors, je crois savoir qu'autour de la table, tout le monde est à peu près d'accord sur l'utilité de ce pass. Michel Pouzol, vous n'avez toujours pas changé d'avis ?
Non, je n'ai pas changé d'avis.
Utile.
Alors, il y a des circonstances dans lesquelles ça peut s'avérer utile. C'est d'ailleurs le cas quand on voyage à l'étranger. Hein. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller sans avoir un certain nombre de vaccinations.
Ça, c'est normal.
Oui, c'est normal. Donc là, c'est un peu le même principe.
Les grands événements, les festivals,
après,
par exemple.
Les grands festivals, les choses comme ça.
Il y a plus de 1000 personnes.
Si c'est pour une sécurité, oui. Effectivement, moi, je ne suis pas pour qu'on ait un pass pour aller au restaurant ou au cinéma dans son quartier, etc. Mais il y a des moments, des grands rassemblements qui sont encore dangereux. Et c'est peut-être une des moins mauvaises mesures. Voilà.
Ouais.
Mais c'est très compliqué de trouver la bonne distance sur ce genre de sujet. Moi, je vous avoue, moi, ça me gêne pas de dire que je suis vacciné.
C'est pas facile de décider, c'est pas facile de trancher. Tiens, Philippe Bilger sur le passé. Alors, on a beaucoup de vaccinés autour de la table. Vous êtes vacciné, Caroline ?
Non, pas encore.
Pas encore, voilà. Philippe Bilger.
Moi, je suis vacciné, oui, mais je longtemps, rejoins. Philippe. Ouais. Je rejoins ce qu'a dit Michel. Je ne vois pas de raison de m'opposer au pass sanitaire. Il va être utile et tout ce qui apporte un mieux dans la gestion d'aujourd'hui me semble acceptable.
Alors, est-ce que... oui, vous l'avez rappelé, Caroline Pilas, quand je parle de grands événements, des festivals par exemple, c'est plus de 1000 personnes, évidemment. C'est un grand événement qui nécessite un pass sanitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que petit à petit, on va aller vers le passeport sanitaire pour accéder au restaurant, par exemple, au théâtre, au cinéma? C'est le cas alors en Israël, mais dans d'autres pays.
Il va être rendu obligatoire.
Est-ce que finalement, on n'y va pas petit à petit, doucement en... Par monsieur homéopathique,
Michel. Le véritable risque, c'est qu'il y a derrière tout ça, mais vous me connaissez, je suis assez parano sur les libertés, et je sais plus qui disait qu'un peuple qui est prêt à lâcher une partie de sa liberté pour sa sécurité ne méritait ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est Roosevelt qui avait dit ça. Donc moi, je suis très attentif à ça. Ce qui me gênerait, c'est qu'on rentre dans une société totalement hygiéniste, où effectivement, à partir de là, on pourrait voir une dérive là-dessus, c'est-à-dire, si vous êtes un sujet à risque, alors ça peut être l'obésité, parce que vous mangez mal, parce que votre vie, etc., je sais de quoi je parle, ça peut être, finissent par créer une société d'espèces de caste, d'agisme, les vieux, les jeunes, etc. C'est pas le cas ici. Ici, si on reste dans la mesure de la lutte contre la Covid et de freiner, de stopper cette propagation qui continue. Parce que on gagne un petit peu en France, mais ça continue dans le monde. Il y a toujours 4000 morts par jour en Inde, il y en a toujours 2500 ou 3000 au Brésil. Donc, il faut stopper ce truc-là sur le niveau mondial. Alors, si ça peut être un outil de plus pour le faire et pour recommencer à vivre un peu plus, je ne vais pas dire normalement, parce que...
Retrouver un peu notre vie d'avant, mais on n'aura pas le choix,
vous savez, il y aura toujours 50% culture. Des Français qui n'iront qu'une fois par an au restaurant parce qu'ils n'auront pas les moyens d'y aller.
Voilà,
mais si on peut en tout cas retrouver une vie plus... où on est un peu plus ensemble.
Bon, vous dites
ensemble,
pourquoi pas.
Mais on n'aura pas le choix de toute manière. Voilà, si on veut retrouver un petit peu de liberté, échanger, qu'est-ce que vous voulez qu'on
fasse ? Mais il faut l'encadrer.
On sera moins isolés. Oui, mais voilà, moi j'étais très dubitatif sur le passeport sanitaire quand on avait fait un grand débat, parce que justement, les gens qui jusqu'à présent ne veulent pas se faire vacciner pour X ou Y raison, seront mis à l'écart de la société, ne pourront pas accéder à la culture et à d'autres loisirs d'ailleurs. Mais on est obligé d'y arriver parce qu'il va bien falloir trouver malgré tout. Donc je suis un peu revenue sur ma position.
Liberté,
sinon on va rester isolé chez nous.
Après, honnêtement, le jour où on est à 80% de vaccination dans un pays et donc on est de ce qu'on appelle au niveau du plateau.
Plus besoin de passe.
À mon avis, là, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de passe.
Philippe Bilger, est-ce que finalement vous ne trouvez pas que la limite au passeport sanitaire, c'est le restaurant par exemple ?
Non, mais à la limite, au risque de choquer mes amis, moi, tant qu'on est soumis peu ou prou au risque de l'épidémie et que notre vie d'avant n'est pas revenue intégralement, je crois que je serais tellement libéral que je serais prêt à tout accepter qui favorisera la communauté de vie. En ce qui me concerne, je ne serais pas gêné si on m'imposait une multitude de contraintes, tant que, bien sûr, nous sommes dans cet espace d'aujourd'hui. Après, je ne fais pas un procès au pouvoir de telle manière qui prétendrait nous gouverner de la même manière la crise passée. Je ne le crois pas.
Alors, vous avez vu ce qu'a dit Jean Castex quand même. Il parlait des masques, évidemment. Alors, on espère enlever les masques en extérieur à partir du 30 juin. Mais il a trouvé que les masques, ça se passait plutôt bien. Et il a dit, pourquoi pas en temps de grippe, par exemple, en pleine épidémie de grippe. Alors, le Covid, évidemment, a remplacé la grippe.
Mais quand le Covid...
Voilà, alors il parle du masque en pleine épidémie de grippe. Vous imaginez tous les ans, par exemple, entre novembre et février, le gouvernement qui impose le port du masque.
Je crois qu'on n'a pas, pas beaucoup de mémoire, mais si vous regardez les documentaires qui datent de d'avant la Covid, vous aviez les pays asiatiques.
Au
Japon, par exemple.
Non, mais là, on est en France.
C'est plus pour des raisons
de pollution.
C'est pas notre culture.
On y viendra, on n'aura pas le choix.
Moi, je serais... Alors, puisqu'on parle de la grippe, là, pour le coup, je suis plus pour qu'on vaccine les personnes à risque comme on l'a fait en France sur la grippe, parce que ça, c'est efficace. Donc déjà, utilisons les outils qu'on a. Et après, la systématisation du masque, c'est ce qui est très compliqué, c'est où ça s'arrête et où ça commence. Ouais. Pour être efficace, on a bien vu, il fallait que ce soit partout. On a bien vu les problèmes que ça pose, notamment avec les enfants dans les écoles, etc. Donc, c'est ça qui... C'est la systématisation qui pose des problèmes. Moi, maintenant... Prendre le masque dans la rue, ça me pose vraiment plus aucun problème. Il suffit juste que je l'oublie pas. Mais voilà, la plupart des gens se sont fait à cette idée-là.
Mais, oui.
Mais dans une classe d'école, par exemple, dans une cour d'école avec des enfants, on voit bien que c'est encore compliqué. On voit bien que les adolescents ont du mal à comprendre le risque, parce que quand on est adolescent, on pense qu'on est immortel, et tant mieux. C'est un des bons moments de l'adolescence. Voilà, c'est ça qui a questionné. Mais de toute façon, cette épidémie, cette pandémie, les mesures qu'elles ont entraînées nous posera forcément la question du monde de demain. Elle nous posera forcément la question, elle pose déjà la question de la manière dont nous vivons, dont nous échangeons, dont nous communiquons.
Nos rapports aux autres, mais c'est déjà le cas, Michel.
Nos rapports à l'autre, bien
donc,
sûr.
C'est déjà le cas. Pour vous, le monde a changé, ça y est.
Mais le monde a changé de toute manière avec cette crise, avec ce virus mondial. On est dans une société de latin, donc on est tactile par la force des choses, mais on arrivera à aussi passer outre. Et c'est pas mal de temps en temps de ne pas se faire la bise, de ne pas se serrer la main, puisque vous avez beaucoup de microbes, de virus qui passent par la bouche, le nez, de manière manuportée. Et les Asiatiques le font depuis des années. C'est pas pour ça que c'est un peuple de demeurer. Donc ça peut être une bonne chose au niveau hygiène. Et pour en revenir à certaines statistiques grippales ou par rapport aux maladies digestives, il n'y en a jamais eu aussi peu. C'est depuis qu'on porte le masque et qu'on a appris aux gens exactement se laver les mains.
Philippe
Bilger,
vous êtes prêt donc à vivre dans le monde d'après, c'est-à-dire un passeport sanitaire, on porte le masque en cas de grippe, on ne fait plus la bise.
Mais peut-être suis-je moins pessimiste que mes amis. Moi, j'espère, ça mettra du temps, qu'on reviendra peut-être au monde d'avant. Entendons-nous un monde d'avant, si on le souhaite, débarrassé de certaines scories sociales. Mais j'ai la faiblesse de penser que une fois ce fléau éradiqué, eh bien, on aura peut-être le bonheur de retrouver notre mode de vie qui nous manque tant aujourd'hui. Ouais.
Tiens, ça vous manque la bise, Philippe Bilger? Très tactile,
non,
Philippe
pas
Bilger.
Du tout.
Pas du tout.
Pas bon, du
Caroline,
tout.
On se faisait la bise avant l'émission il y a un an et demi.
Un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a tellement de gens sales qu'à l'arrivée, ça me dérange pas.
Ah bon. Moi qui suis très tactile, souvent, je m'en suis rendu compte depuis la Covid que j'aimais bien toucher les gens par le bras, les attraper, voilà, les choses tactiles, etc. Et bien, ça fait 2 ans que ça... Et finalement... je vis très bien. Et je me rends compte surtout que j'ai rencontré de nouvelles personnes pour des raisons professionnelles avec que je ne connaissais pas. Et donc avec qui je n'ai jamais eu ce rapport plus tactile, etc. Et finalement, notre rapport n'est pas ni détérioré, ni handicapé.
Allez, pour finir, Philippe Bilger.
Michel, et il faut pas oublier une chose, et ça n'est pas de l'ironie. Moi, comme vous, j'avais l'habitude, et j'ai l'habitude, en argumentant, de toucher le bras de l'autre. Oui. Mais j'ai noté que pour certaines femmes et certains mouvements, le fait de toucher le bras d'une femme relève de l'agression sexuelle. Ah. C'est délirant, mais ça a été constaté. Il faut faire très attention à ça.
Là, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est encore autre chose.
C'est autre chose.
Ah ben non, mais...
Mais moi,
c'est exactement le même geste.
Moi, quand on me touche le bras en général dans les médias, c'est pour me demander de me taire. Et ça me pose un problème parce que c'est pour me demander de fermer ma bouche.
Mais moi,
je trouve qu'il y a un genre de soumission.
Je vais vous dire autre chose, Philippe, qui va peut-être vous surprendre. Mais moi, il m'arrive d'avoir des grandes discussions. Vous le savez, je suis assez enflammé, mais avec des gens qui argumentent beaucoup. Et certaines personnes, même mécaniquement, parfois, ont des gestes qui me touchent et qui, moi, me gênent. Voilà, je me suis rendu compte de ça aussi.
Mais genre quoi?
Eh bien, je vais vous dire, c'est très marrant, mais quand vous êtes comme moi, tout en rondeur, eh bien, quand on vous parle, pour vous convaincre, on vous touche souvent le ventre.
Ah non, ouais, c'est pas vrai. Normal.
Comme ça, mais du coup, les doigts,
c'est inadmissible. Mais qui fait ça?
Eh bien, il y a plein de gens qui le font en réflexe. Ah ouais. Et je me suis rendu compte que moi, ça ne me plaisait pas tant que ça.
Mais
ça
c'est humiliant, ça, même.
C'était un peu humiliant. Oui. Et je comprends donc d'autant plus facilement, en ayant vécu, moi, que ça puisse, qu'un geste qui nous paraît anodin quand on le fait, puisse paraître à l'autre, et notamment
non, vous faire la part des choses.
Un peu limite, il est peut-être anodin, mais parfois...
Bien
il
sûr,
est
c'est comme caresser la tête, exactement. Ça fait un petit peu d'affiche infidèle. Mais par contre, moi, ce qui me manque, c'est d'enlacer mes proches. Vraiment,
oui, bien sûr.
Des câlins à mes parents, vraiment, ça, c'est un manque.
On vous a jamais touché le ventre, Philippe Bilger?
Non, mais j'ai pas encore le ventre de Michel, mais ça ne saurait tarder.
Ah, vous êtes à l'abri, je crois, Philippe. C'est bon,
non,
vous avez
attendez,
fait
attendez,
ce qu'il fallait.
Attendez, les restaurants.
On fait jamais, Michel.
Les restaurants vont bientôt rouvrir. Tiens, le 19 mai, et ça a été acté, réouverture des terrasses dans toute la France. D'ailleurs, je vous le dis, hein, les vraies voix seront en direct d'une terrasse la semaine prochaine, le mercredi 19 mai, pour fêter l'événement. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. On va poursuivre, évidemment, le tour de table de l'actualité. Et le premier débat des vraies voix dans quelques minutes, c'est la suite. Une candidate voilée aux élections départementales. Alors ça fait polémique ces dernières heures. La République En Marche est divisée sur le sujet. Une candidate voilée sur une affiche de campagne. Est-ce que ça vous choque? Tiens, vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis surtout, vous nous appelez pour en discuter avec les vraies voix. 0826 300 300. On revient très vite. Restez avec nous. À tout de suite. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Avec Caroline Pilastre ce soir, Philippe Bilger, Michel Pouzol, on poursuit le tour de table de l'actualité.
Eh oui, alors évidemment, quand on met cette musique, on s'attend à beaucoup, beaucoup de choses. On va parler des clubs libertins, voilà, les patrons.
Ça après Bob Marley, ça...
Oui, on fera pas de striptease, monsieur.
Non, il n'y aura pas de striptease de la part de Caroline Pilas. Mais pourquoi quand on parle de striptease,
aussi,
on parle de femmes? Non, ça pourrait peut-être être Michel Pouzol, qui enlève
pourquoi
son polo. Voilà, bon.
Ça ne serait pas la première fois.
Ah bon, vous avez déjà fait un striptease, Michel?
Vous savez, les troisièmes mi-temps au rugby, et des débordements.
Ça mérite une émission.
Oui,
mais ça restera privé.
Très bien.
Troisième,
je me permettrai pas de vous poser la question concernant le striptease, Philippe Bilger. Voilà, je ne l'ai posé qu'à
mais
Michel
Pouzol.
Mais
je n'en ai jamais fait. Bon, même pas un strip poker.
Même pas un strip poker. Bon, très bien. Les patrons de clubs libertins ont plutôt le sourire. Eh oui. Alors, en Corrèze, par exemple, on va prendre l'exemple de la Corrèze. La préfecture vient d'autoriser le club libertin de Libersac à rouvrir ses portes. Le fruit de la passion, voilà, c'est le nom de ce club libertin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais surtout, c'est une grande incohérence, puisque je vous rappelle que les discothèques n'ont pas le droit de rouvrir, en tout cas toujours pas. On aura la réponse, peut-être une date le 15 juin, mais en tout cas, les clubs libertins, en tout cas certains, rouvrent, Caroline Pilastre.
Oui, exactement. Je voulais parler de ce sujet léger mais chaud. Alors que les discothèques sont fermées depuis mars 2020 et ne connaissent pas encore leur date de rouverture, comme tu le disais, Philippe, les clubs libertins peuvent rouvrir, alors dans des conditions bien particulières,
évidemment,
en respectant...
Les gestes barrières.
Je ne sais pas comment, mais les gestes barrières, ouais. Vu la promiscuité, vous allez m'expliquer. Bon, alors, est expliqué qu'il y aurait les autotests, le gel hydraulique... les préservatifs, bien évidemment, le passeport sanitaire. Mmh. Mais forcément, en fonction des endroits, la jauge sera plus ou moins réduite. Ouais. En général, ces clubs-là sont censés être grands. Malgré tout, promiscuité, promixité. Donc, comment allons-nous faire? J'ai envie de vous dire, en termes de cluster, ne va-t-il pas y avoir des foyers supplémentaires?
Si c'est un problème de danser en boîte de nuit, c'est encore plus un problème d'aller dans un club libertin.
Nous ne sommes pas une incohérence près de la part de la Macronie. Donc, je vous laisse méditer sur le sujet.
Alors, Michel Pouzol, j'aimerais avoir l'avis de Philippe dans quelques instants.
Vous avez fait un petit lapsus qui m'a fait rire, excusez-moi.
Ah bon,
vous avez parlé de gel hydraulique au lieu
d'hydroalcoolique.
Mais hydraulique, effectivement, dans un club libertin, ça peut avoir du sens.
Vrai.
Ça peut avoir effectivement du sens. Non, moi, je me posais la question de savoir si les clubs libertins allaient rouvrir en terrasse et en respectant les distances de sécurité. Parce qu'alors, effectivement, ça pourrait effectivement créer un peu d'animation dans certaines de nos campagnes.
Non, alors, on plaisante, évidemment,
non, mais, bien sûr,
mais c'est un sujet sérieux,
non, mais
puisque là encore, il y a une petite incohérence.
Ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai pas de problème avec les clubs libertins,
ouais.
Voilà, c'est au contraire, je pense que pour plein de couples, ça a sauvé plein de couples, donc tant mieux. Et puis les gens ont le droit de s'amuser, c'est formidable, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser ouvrir un club libertin et pas une boîte de nuit. Pour le coup, je vois pas très bien, parce que le principe d'un club libertin, pour le peu que j'en sais, c'est d'abord un endroit effectivement où on va boire des verres,
il faut un
où
peu
on danse,
de libertinage,
où on danse, et puis où la troisième partie de la soirée, au lieu de se faire à l'arrière d'une voiture, se fait plutôt entre amis.
Mais voilà. Vous allez m'expliquer comment vont être respectés les gestes barrières.
Donc, voilà,
on
c'est ça que
bon. ça paraît bizarre,
totalement surréaliste.
Alors, Philippe Bilger, c'est vrai qu'on rigole beaucoup depuis quelques minutes, mais c'est vrai que là, c'est une incohérence quand même.
Oui, mais D'abord, êtes-vous sûr de cette nouvelle?
Ah oui, tout à fait, Philippe.
Ah,
oui.
Ah bon? Ah oui. Parce que, certes, les incohérences sont multiples, mais celle-là, elle est considérable, tout de même. À moins qu'il y ait une sorte d'extraterritorialité de cet établissement, que par magie, il évite les contacts et qu'on ait un libertinage du nouveau monde, comme Macron nous le promettait.
Bon, maintenant, si effectivement il demande un passeport, le fameux passeport sanitaire, on en parlait tout à l'heure, bon, on peut comprendre. Alors, il faudrait la même chose pour les boîtes de nuit, voilà, un passeport sanitaire.
Oui, mais je vois la condition. Je vous rappelle que la vaccination protège essentiellement des cas graves. Hein.
Oui, elle aide on peut attraper le Covid.
On peut encore attraper le Covid, alors peut-être de moins souvent, etc. Donc là, enfin, s'il y a bien un endroit où le contact est important, et je dirais même fondamental ou nécessaire, c'est bien Libertin, sinon, où est l'intérêt? Donc, j'ai du mal à comprendre cette aberration. Notamment, je vous le dis, par rapport, on disait, au club, aux boîtes de nuit.
Oui, bien sûr.
Et on sait aussi quand même une chose, parce qu'on l'a très peu dit, mais c'était passé dans l'information l'année dernière. Pendant les vacances, l'ouverture, la fin du confinement pendant les vacances d'été de l'année dernière, on avait quand même enregistré une explosion des clusters. Oui. Au Cap d'Agde, dans ces fameux clubs échangistes, où on a vu une explosion de clusters dans ces endroits-là. Donc, on sait que c'est des endroits qui ont présenté un vrai danger il y a un an. Considérer qu'ils sont moins dangereux qu'une boîte de nuit, ou, on en parlera tout à l'heure, qu'un restaurant, puisqu'on peut, dans un restaurant, on ne pourra pas y rentrer pour aller ne serait-ce qu'aux toilettes, ça me paraît extrêmement
étrange.
On va voir.
En tout cas,
vous avez l'air, Michel, vous avez l'air de connaître très bien cet univers.
Tout ce qui est humain m'intéresse.
Bon, vous savez, très bien. Bon, en tout cas, si vous voulez tester le fruit de la passion, voilà, c'est le club de Lubersac en Corrèze, voilà, qui va rouvrir la semaine prochaine. Restez avec nous. On va poursuivre dans un instant les vraies voix avec notre premier débat et cette candidate voilée aux élections départementales, La République En Marche, qui est divisée sur le sujet. Hein. Voilà, évidemment, Stanislas Guérini, le patron de l'AREM, a demandé à cette candidate de retirer son affiche. Est-ce que ça vous choque? 0826 300 300, venez en débattre avec nous. La République En Marche a-t-elle raison de refuser une candidate voilée? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter et YouTube. Pour le moment, vous dites oui à 86%. On se retrouve dans un instant. Restez là, tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sont de retour sur Sud Radio avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, avec le porte-parole du mouvement Génération. Il est avec nous, Michel Pouzol. Caroline Pilastre est la consultante dans le domaine du handicap visuel. Voici tout de suite le premier débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Et voilà, Michel Sardou pour commencer ce débat. Alors évidemment, là aussi, quand on parle de Michel Sardou, on a que l'embarras du choix. Musulmane, voilà, ode à la femme musulmane, c'est ce que chantait Michel Sardou dans les années 80. Et donc, ces élections départementales, une candidate voilée du canton de Montpellier qui embarrasse fortement La République En Marche. Hein. Alors, ce n'est pas la titulaire, hein. Cette femme, c'est la remplaçante, qui apparaît voilée sur l'affiche de campagne avec pour slogan « Différents mais unis pour vous ». Et donc, Stanislas Guérini, qui a tweeté ceci, et qui répondait d'ailleurs à Jordan Bardella, c'est au départ, évidemment, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui s'indignait de cette candidate voilée. Soit ces candidats changent leurs photos, soit La République En Marche leur retira leur soutien. Voilà ce qu'a tweeté Stanislas Guérini. Prise de position qui divise au sein de la majorité. Par exemple, le député de la Vienne, Sacha Houlier, a exprimé son profond désaccord. Il y en a d'autres. Hein. Coralie Dubos, par exemple, une candidate voilée au départemental. Est-ce que ça vous choque? Tiens, est-ce que Stanislas Guérini a raison de refuser une candidate voilée? Vous votez sur Twitter et YouTube. Vous dites oui à 80% pour le moment. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité? 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix.
C'est l'heure du...
Le duel des vraies voix avec Pierre du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous Pierre. Tiens, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité, mon cher Pierre? Et en face de vous, Michel Pouzol, qui ne pense pas comme vous. Justement, c'est le principe du duel. Dites-moi tout, Pierre.
Eh bien, écoutez, moi, je suis contre.
Ouais.
En plus, apparemment, En Marche n'était pas au courant. Elle a été malhonnête parce qu'elle n'aura pas dit de but en blanc ce qu'elle voulait. Qu'elle voulait se présenter sur les affiches voilées.
Mmh. Alors, oui, c'est vrai qu'En Marche, parce que c'est une remplaçante aussi, peut-être. Voilà, parce
suppléante.
Que, oui, une suppléante, pardon, elle n'était pas titulaire. Ouais.
Peu importe qu'elle soit remplaçante ou pas, elle fait partie de la liste et elle n'a pas prévenu En Marche de sa démarche.
D'accord. Il n'y a que ça qui vous choque, Pierre, le fait qu'elle n'ait pas prévenu La République En Marche?
Pardon?
Il n'y a que ça qui vous choque, le fait qu'elle n'ait pas prévenu La République En Marche?
Non, et puis c'est contre la laïcité. Je crois qu'il y a eu des lois qui ont dit que, par exemple, dans les universités, etc., il ne fallait pas y aller voiler, il fallait respecter les lois. Il y a des tas de choses comme ça où ils passent, où tout le monde passe par-dessus. Et voilà. Vous savez, je vais vous raconter une petite
histoire.
J'ai de la famille qui sont allés travailler en Arabie Saoudite. C'était à l'époque, c'était pour construire le palais du roi Fahd.
Ouais.
Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils avaient une croix, et bien on leur a fait enlever, vous voyez, systématiquement la croix qu'ils avaient, sans autre forme de procès, quoi. Vous voyez.
Bon.
Donc je pense que nous sommes beaucoup plus tolérants que...
Que le son. Alors, Michel Pouzot, tiens, pour répondre à Pierre, est-ce que c'est contre la loi de porter un voile?
Non, c'est absolument pas contre la loi.
Et surtout se prendre en photo pour une campagne,
affiche de campagne. Vous pouvez porter une croix si vous le souhaitez, vous pouvez porter ce que vous voulez. Alors, c'est pas la pratique, c'est pas l'usage, effectivement, en général. Et puis après, il y a une règle qui est quand même extrêmement simple en politique, c'est le vote des citoyens qui vous sanctionne ou qui vous sanctionne pas, qui vous approuve ou ne vous approuve pas. Mais je voudrais juste quand même revenir sur cette polémique parce que moi j'ai vu l'affiche, effectivement, je vous avoue que ça me serait pas venu à l'idée dans mon canton. Que j'essaie de respecter effectivement une certaine neutralité, même si il n'y a rien de moins neutre qu'une élection cantonale. Moi, j'ai des logos sur les affiches. Voilà, on revendique des choses. Donc, c'est pas la même notion de neutralité qui sied au service public, qui sied à la laïcité, auquel moi je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais juste quand même pour on voit bien ce qui se joue dans cette polémique. C'est pas tellement l'histoire de cette remplaçante, parce qu'en plus, les remplaçants sur les élections cantonales, c'est pas, ont un rôle important, mais pas définitif par rapport, c'est pas qui siège, en tout cas. On voit bien que c'est une course à l'échalote entre le RL, encore une fois, qui a piégé un peu la LRM et qui, c'est ça, on voit bien qu'il y a cette lutte politique derrière. Moi, je voudrais juste attirer quand même un tout petit truc, parce que on entend beaucoup que le pays est en grand déclin, etc., etc. Il y a à peu près 2000 cantons. Double. Ça fait qu'il y avait 4000 cantons, il y en a encore 2000. Il y a à peu près, là, dans l'élection qui arrive, 32 000 candidats en France.
Ouais.
32 000 candidats aux élections départementales. Hein. Donc, voilà. On a un cas qui nous occupe beaucoup et qui fait une petite polémique. Remettons les choses dans leur place. Après, qu'on se pose des questions sur les candidats. Et là, ça m'intéresse plus de savoir qui sont les candidats, ce qu'ils portent, ce qu'ils disent, et je crois que cette candidate n'est pas une candidate anodine, ça c'est une autre question. Mais c'est la question qui sera tranchée, encore une fois, je le dis, c'est le principe et la richesse de la démocratie par les électeurs.
Ouais.
Et que La République En Marche enlève le logo, alors là, c'est mon dernier de mes soucis, ils se débrouillent entre eux, mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas été prévenus, ils savent très bien, quand on fait des listes électorales, quand on fait des candidatures, j'en sors, je peux vous dire que tout le monde sait à peu près qui est qui, comment, et les staffs politiques pour éviter ce genre de dérapage, sont très attentifs, donc il n'y a pas d'erreur, en tout
Alors,
cas.
Alors, Philippe Bilger, tiens, qu'en pensez-vous? Est-ce que Guérini s'est un peu tombé dans le piège que lui a tendu Jordan Bardella?
Je ne crois pas. Alors, j'ai beaucoup d'hésitations. Hein. On ne peut pas être péremptoire, mais je serais plutôt du côté de Stanislas Guérini, ce qui m'arrive rarement. Mais d'abord, l'argument de Michel sur les 32 000 candidats ne me paraît pas totalement fiable, dans la mesure où c'est précisément parce qu'il s'agit d'élections qu'on n'a jamais connu de situations multipliées comme celle d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que je pense tout de même qu'une élection, quelle qu'elle soit, est un moment démocratique emblématique et que là, on ne peut pas permettre d'avoir une apparence qui tranche par rapport à l'apparence républicaine et humaine habituelle. Et troisième élément, je pense que cette candidate suppléante aurait pu avoir la pudeur démocratique de ne pas mettre son voile. Dès lors qu'on veut se présenter dans une élection phare d'un pays démocratique, on en respecte d'une certaine manière les traditions.
Est-ce que ça vous aurait choqué, Philippe Bilger, si à la place de cette candidate, il y avait un candidat avec une chaîne, une grosse croix, par exemple ?
Une grosse croix, oui.
Ouais.
Il y en a.
Moi aussi.
Caroline.
Le voile est légal, hein, mais pour moi, ça me choque, car je n'ai pas à connaître la foi d'une candidate. C'est la religion est quelque chose, pardon, de personnel. Et le port d'un signe ostentatoire religieux, quel que soit ce signe, tu le disais, la croix, la kippa, le voile, n'a pas à s'afficher en politique pour moi. La politique doit être neutre. Et en l'occurrence, si il ne décide pas de retirer cette photo, eh bien, la REM va décider de ne plus les investir.
Ah ouais. Ce qui n'empêchera pas leur candidature, qui est tout à fait légale.
Oui, sauf qu'ils n'auront pas le logo de la République en marche.
Pour le coup, je ne suis pas certain que ce soit le pire des handicaps qu'on puisse subir dans cette élection qui va arriver. Je ne suis pas certain que le logo de la République en marche, parce qu'il se vend le mieux en ce moment.
Pierre, bon, voilà, je voulais poser la question à Pierre, évidemment, la question que j'avais posée à Philippe Bilger sur la croix. On retrouvera Pierre dans quelques instants. Mais effectivement, alors, est-ce que finalement, alors, on sent bien, vous avez raison, Michel Pouzol, qu'il y a depuis quelques semaines maintenant cette guerre affichée entre le Rassemblement national et La République En Marche. Est-ce que vous croyez que durant toute cette année...
Philippe
Bilger.
Pardon de vous couper là-dessus. Je trouve que ça devient un peu lassant. À chaque fois qu'une polémique, un débat, un enjeu démocratique se pose dans le pays, de le réduire à rien parce qu'il opposerait le Rassemblement National à La République En Marche ou bien aux Républicains. C'est pas parce que le Rassemblement National est dans un débat que ce débat est forcément illégitime. Et donc, moi, je trouve que votre question est tout à fait valable dans le cadre des vraies voix.
Non, le problème, c'est qu'il va y avoir toute cette année, sur plusieurs polémiques, il risque d'y avoir de la surenchère de la part de l'RM et des RM.
Je ne dis pas que la politique...
Et nous, on va arbitrer.
Chacun peut avoir effectivement une opinion là-dessus. Il est illégitime, mais il y a d'autres endroits. Je pense à la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays moins démocratique que la France, me semble-t-il, mais largement, où les signes religieux sont affichés systématiquement.
Sauf que nous
vous avez un turban, d'accord, mais excusez-moi.
Nous avons une laïcité qui est quand même unique.
Quand on vote, on ne vote pas. Excusez-moi, une élection...
Mais peut-être, mais moi je suis en désaccord. D'accord. Je n'ai pas à connaître la foi de quelqu'un. Ça ne me concerne pas politiquement.
Excusez-moi, quand on vote pour les élections, on ne vote pas pour la culture. On ne vote
mais
pas pour une culture.
On vote pour
des idées. On vote pour des idées. On vote pour des partis, pour des programmes.
Vous
mais non,
votre
c'est ça la
religion.
Vérité.
Mais bien sûr que si vous,
vous pouvez
pas
vouloir changer la démocratie, elle reste ce qu'elle est. Je n'y peux rien. C'est comme ça, c'est historique.
Dans un pays anglo-saxon, nous ne sommes pas dans un pays multiculturel.
Rien ne nous empêche
peut-être
de le faire.
Peut-être que vous le désirez. Moi, je ne le veux pas.
Mais
quand je vote pour quelqu'un, je ne veux pas savoir quelle est une fois de plus sa religion. Ça n'a pas pour moi à rentrer en ligne de compte dans la campagne politique. Mais arrêtez, c'est pour attirer. C'est large qui font ça. Arrêtez le délire. Bon, ce sont des opportunistes. C'est de l'opportunisme électoral. On est en campagne.
C'est vraiment une polémique. Mais excusez-moi. Moi, dans ma circonscription, dans l'Essonne, j'ai des gens qui se revendiquent effectivement aussi d'autres religions et qui le font concrètement. Mais ça passe parce que c'est dans la culture. Excusez-moi, je suis désolé.
Est-ce que sur une photo, Michel, la personne porte une croix ou une kippa ? Je ne voterai pas.
C'est vrai.
C'est ce que je vous dis. C'est ça la démocratie.
C'est vrai que c'est un problème de culture puisqu'on n'aurait pas le même débat. En Angleterre, par exemple. Voilà.
Mais nous ne sommes pas des Anglais.
Mais nous ne sommes pas en Angleterre. Je suis d'accord avec vous.
Que faire ce débat, alors qu'on parle, encore une fois, je le dis, d'une candidate. Moi, j'ai vu la photo. En plus, elle est en blanc, je ne sais pas quoi. Enfin, ça ressemble plus à un foulard qu'à un voile religieux, honnêtement, quand vous voyez le truc.
Oui, on ne peut pas savoir si c'est un voile islamique. On ne peut pas savoir si cette personne ne respecte pas les lois républicaines.
Ce que je vous dis, c'est simplement, après, moi, les questions qui m'importent, c'est quels sont les candidats, qu'ils aient des voiles, des croix, des kippas ou pas. Parce que il y a des candidats qui sont sur les affiches qui passent très nettement, tranquillement dans ces élections-là, et qui me posent, moi, énormément plus de problèmes, y compris sur les sujets que vous évoquez. Donc c'est ça qui, moi, me paraît le plus fondamental
dans
ce débat-là.
Alors, la décision n'a pas été prise, hein, Philippe Bilger. On ne sait pas si La République En Marche apportera ou pas encore son soutien à cette candidate.
Mais je pense que Stanislas Guérini a tout de même la priorité, dans la mesure où ça concerne son parti. J'aurais tendance à penser qu'il l'emportera, mais rien n'est sûr.
En attendant, c'est ce qui est dit. Si la photo est maintenue, hein, s'il n'arrive pas à trouver une solution, eh bien, Guérini a décidé.
Il ne changera pas d'avis, Guérini, il l'a dit. La République en Marche a-t-elle raison
leur donner l'investiture.
La République en Marche a-t-elle raison de refuser une candidate voilée? Score final sur Twitter, oui, à 88%. On remercie évidemment Pierre, voilà, qui nous appelait du Tarn-et-Garonne au 0826-300-300. Et on passe tout de suite à notre deuxième débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Voilà, la musique du déconfinement qui se prépare, le déconfinement. Alors on en sait un petit peu plus, évidemment, le Premier ministre a dévoilé un agenda très précis aux Parisiens aujourd'hui en France. Ça commence bien le 19 mai, ça c'est sûr, avec l'ouverture des terrasses dans toute la France. Ouverture des terrasses avec une jauge de 50%, une jauge qui inquiète les restaurateurs. Les restaurants trop sévères pour certains, alors que je vous le rappelle, seuls 40% des établissements disposent d'une terrasse. Est-ce que le gouvernement est trop prudent? Voilà, vous nous appelez 0826-300-300. Faut-il supprimer la jauge des terrasses des restaurants qui, pour le moment, a été actée à 50%? Vous dites oui sur Twitter et YouTube. Oui, à 89%. Stéphane Manigold est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir
à vous, Stéphane Manigold, restaurateur, propriétaire de plusieurs restaurants, président du collectif. Restons ouverts. Pourquoi, mon cher Stéphane, trouvez-vous que cette jauge est injuste?
Bah, elle est injuste parce qu'elle n'a pas été annoncée lorsque le président de la République a pris la parole, tout simplement. La seule chose qu'il a annoncée, c'est l'ouverture des terrasses le 19 mai avec une capacité maximale de 6 personnes par table. Bon, bah, nous, on s'est organisé en ce sens. On avait quand même un peu senti, parce qu'on participe activement aux discussions, on a senti que la santé allait y mettre son grain de sel. Je ne vais pas dire que ce sont des talibans de la santé, mais presque, puisqu'ils refusent le dialogue. Sans aucune base scientifique, on nous explique aujourd'hui, on nous sort du chapeau alors qu'on est organisé, qu'on a commandé, vous imaginez bien, du mobilier, on a fait venir nos personnels, on a pris des réservations. Eh bien, on va devoir modifier, a priori, hein, on va devoir modifier bien tout cela. Et ça, on ne l'accepte pas parce qu'il n'y a aucune base scientifique qui dit qu'à l'extérieur, il y a un risque de contamination. Et puis, je vais même pousser plus loin. Si on nous met la même jauge à l'extérieur qu'à l'intérieur, pourquoi ne pas ouvrir tout de suite l'intérieur? Puisque, au fond, si on nous explique qu'à l'extérieur, bah, c'est les mêmes risques qu'à l'intérieur, ouvrons les deux. Et arrêtons de tourner en rond et d'être dans un truc qui est complètement absurde. Alors on continue les discussions, croyez-moi, on est depuis hier soir, on a entamé un bras de fer que j'espère qui va aboutir sur le bon sens. Et nous on demande à ce qu'il y ait un mètre par table. Et encore, le 1 mètre, il peut être discutable, parce que c'est pas la table qui contamine, c'est celui qui est potentiellement assis sur une chaise, donc on raisonne en plus, vous voyez qu'on n'est pas très logique dans ce système.
Donc vous espérez demain, par exemple, Stéphane Manigold, vous espérez que demain, le gouvernement change d'avis et donc supprime cette jauge?
Demain ou ce soir même?
Ou ce soir. Mais c'est possible, selon vous? C'est possible, selon vous?
Voilà, les discussions qu'on a eues, elles étaient assez tendues. Moi, j'ai des retours où on sait très bien que l'économie, que ce soit Bercy ou l'ensemble des autres ministères, sont plutôt de notre côté, soyons clairs. Mais il y a des arbitrages qui doivent être faits. Et les derniers, ce sera... moi, j'en appelle même plus à Jean Castex, hein, parce qu'il n'en est pas à une près. J'appelle vraiment le président de la République, cette fois-ci, à se positionner et à arrêter ce un pas en avant, un pas en arrière. On a demandé de la lisibilité. J'étais très enthousiaste, comme quasiment toute la profession, vous l'avez rappelé, seulement 40% des restaurateurs ont des terrasses. Il ne s'agit pas à quelques jours d'un événement que les Français et les Françaises attendent, que nous attendons tous. Ben, il ne s'agit pas à quelques jours, comme ça, d'imposer de nouvelles règles. Je suis convaincu que notre ami Philippe Bilger considère quand même qu'en termes de droit, c'est pas terrible comme...
On va lui demander, Philippe Bilger.
Écoutez, moi, j'étais d'abord dans la béatitude de savoir que les terrasses allaient rouvrir le 19 sans penser aux détails, mais je ne suis pas loin sur ce plan de partager l'avis de Stéphane Manigold. Au fond, à partir du moment où on libère en France, il est nécessaire toujours de remettre un peu de bureaucratie.
Oui. Alors, Caroline Pilas, c'est juste après l'avis de Michel Pouzol sur cette jauge à 50%, dont dans toute la France, c'est-à-dire que même dans les zones vertes où le virus ne circule pas beaucoup, il y aura une jauge à 50%.
C'est Caroline. Encore une histoire de millefeuille administrative, effectivement, de grande bureaucratie. Hein. C'est la France, une fois de plus. Écoutez, moi, je trouve que c'est une incohérence de plus. Vous avez des restaurateurs qui ont des petites terrasses, donc forcément, en termes de chiffres, ils vont y perdre.
Ouais.
Monsieur Manigold pourra nous confirmer qu'on ne pourra pas rentrer faire nos besoins primaires, concrètement faire pipi à l'intérieur d'un restaurant. Donc moi, ça ne me donne pas envie de retourner au restaurant.
On ne pourra pas aller aux toilettes, Stéphane Manigold.
Non, c'est interdit.
Attendez. Non, mais c'est interdit. Ce qui est interdit, c'est d'interdire quelque chose qui est obligatoire. Et à nouveau, j'appelle
C'est ça.
Vous savez, nous, on a l'obligation, lorsque vous venez chez nous, même si vous ne consommez pas, on a l'obligation quand même de vous recevoir et de vous mettre à disposition.
Bah oui,
mais vous êtes ouvert, vous avez du bon sens. Mais c'est vrai que, par exemple, on parle des terrasses, on a tous envie de se retrouver, on va respecter autant que possible les gestes barrières. On sait à quel point cette liberté est trop importante pour nous psychologiquement et pour vous économiquement. Mais je pense aussi à vos collègues qui sont à la montagne. S'il fait 4 degrés, vous croyez que les gens vont aller se déplacer en terrasse?
Ouais, c'est
donc
vrai.
À un moment donné, il faut quand même un peu de cohérence.
Pour finir, Michel Pouzol, j'ai pas eu votre avis. Ouais, Michel, qu'en pensez-vous, Michel?
Déjà, je trouve que ce déconfinement aurait dû être fait région par région, parce qu'il y a des régions et des territoires
où la Covid
circule très peu et depuis des mois qui n'ont pas été touchés. Je pense notamment, mais c'est pas que le seul, mais au Sud-Ouest ou à des choses comme ça. Et bien là, on aurait dû rouvrir les restaurants tranquillement et de manière beaucoup plus large et plus vite. La jauge, ce qui va être tragique, c'est que la jauge va pas permettre à ces restaurants de rouvrir parce que ça sera pas rentable. Mmh. Alors j'espère au moins que tant que la jauge est là, les aides qui doivent aider les restaurateurs vont rester et ne vont pas être supprimées. Parce qu'alors là, ça serait la double peine. Mmh. On ouvre des terrasses qu'on ne peut pas utiliser et qui ne seront pas rentables et on supprimerait les aides. Et là, le taux de passe-passe serait un peu trop gros. Donc j'espère qu'on ne va pas arriver.
Ce que je vous propose, Stéphane Manigold, puisque vous êtes en pleine négociation avec le gouvernement, et j'espère qu'on aura une réponse demain, est-ce qu'on supprime cette jauge ou pas? Ben, selon la réponse, vous venez nous en parler, Stéphane Manigold, peut-être demain, voilà.
Je vous envoyais, si vous voulez le diffuser à votre antenne, je vous envoyais le déconfinement de nos amis suisses. D'une simplicité biblique.
Oui, ben oui.
On ne peut pas faire plus simple.
Oui.
Je vous ai envoyé la photo. Eh bien, en France, ce serait bien de temps en temps qu'on s'inspire de nos voisins suisses qui ont fait quelque chose de très simple, compréhensible et très simple.
Merci à vous, Stéphane Manigold. Peut-être à demain, donc, si la décision tombe, restaurateur, président du collectif Restons Ouverts. On vous posait cette question sur Twitter et YouTube. Faut-il supprimer la jauge des terrasses et des restaurants? Vous dites oui à 89%. Les débats des vraies voix à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, puis également sur notre chaîne YouTube. On va jouer dans quelques instants. Roi de l'info, reste avec nous, 0826-300-300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Bienvenue, c'est la suite des vraies voix avec Caroline Pilastre, Michel Pouzol, Philippe Bilger, Jean-Marie Bordry. Voici les rôles d'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Les rois de l'info avec Jean-Marie et vous au 0826-300-300.
Et tout de suite, on accueille Bruno au 0826-300-300. Bonsoir à vous, Bruno.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Bruno. Bonsoir.
D'où est-ce que vous nous appelez, tiens?
Ben, j'appelle de Cahors.
De Cahors dans le Lot. Formidable, à côté du pont Valentré. Mon cher Bruno, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les deux autres, Philippe Bilger, Michel Pouzol ou Caroline Pilastre.
Je vais prendre la seule femme qui va m'aider, je pense.
Ah j'espère, on va former un bon binôme. Merci pour autant d'enthousiasme.
Allez, bon, et puisqu'il n'y en a qu'une.
Par dépit.
Bon, mon cher Bruno, je vais vous poser trois questions. Vous répondez tout seul, sans aide en premier, que je vous donne ou non d'ailleurs des indices. Si jamais vous vous trompez ou si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, les trois vraies voix se battent. Et si Caroline Pilastre a la réponse avant les deux autres, vous avez le point quand même. C'est parti ?
Allez, on y va.
Bon, je ne sais pas si vous avez un jardin à Cahors, mon cher Bruno, mais sachez-le, nous sommes le 11 mai. Et le 11 mai, c'est le début des trois jours redoutés par tous les jardiniers et les maraîchers de France. Les saints de glace, la tradition veut que tous les ans, aux mêmes trois jours, ils se remettent à geler une dernière fois. Alors, la question pour vous, Bruno, je vais vous donner trois possibilités. Tout le monde a déjà une fois, par hasard, entendu parler des saints de glace, mais personne ou presque ne sait comment ils s'appellent. Quel est le nom des trois saintes glaces d'après vous ? Réponse numéro 1, Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. Réponse numéro 2, Saint-Prosper, Saint-Protée et Saint-Méthode. Réponse numéro 3, Saint-Paterne, Saint-Samson et Saint-Brieuc.
Si, moi je dirais 2.
C'est la 3.
C'est la une.
Ah,
c'est
la bravo, je l'avais pas. La
Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. Voilà. Uniquement des noms à la mode.
Saint-Pancras. Voilà.
Absolument.
Je me rappelais de Saint-Pancras.
Vous vous rappeliez de Saint-Pancras, effectivement. Eh bien, c'est ça, en tout cas. C'est pas grave, il reste deux questions, mon cher Bruno. Sachez-le, en tout cas, depuis des temps immémoriaux, la tradition a presque 1000 ans, ces saints étaient invoqués par les agriculteurs et les jardiniers pour anticiper l'effet du gel. Ça devait être la dernière. Alors, figurez-vous que statistiquement, d'ailleurs, le gel intervient assez peu pendant ces trois jours, mais qu'il arrive qu'il gèle plus tard encore que ces trois jours. Comme ça, vous savez tout. Allez, on continue, on recommence. Mon cher Bruno, c'est pour vous. Le 11 mai, vous allez tendre bien l'oreille. C'est aussi l'anniversaire de la naissance d'un des plus grands peintres du XXe siècle. Et sachez-le, l'un des plus modestes également. Tendez bien l'oreille, Bruno. Ce peintre répond à un journaliste qui lui demande lequel de lui ou Picasso est le plus grand. Écoutez.
Que pensez-vous de Pablo Picasso?
Après moi, le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien, c'est-à-dire c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie à moi, est de plus en plus près de ceux des anges.
Bon, je vous laisse un indice. C'est pas Picasso, allez, hein, vous l'aurez compris.
C'est facile.
C'est facile. Si vous voyez la photo, vous le reconnaîtriez. Il est reconnaissable entre tous. Il
et la voix, la voix.
Et la voix, l'accent espagnol. D'après vous, c'est qui, mon cher Bruno?
Si c'est pas Picasso, je vois pas. Hein.
Alors, je vous aide un petit peu quand même. Je vous
Salvador.
Dis
des... ouais.
Salvador Dalí.
J'allais dire des moustaches.
Voilà. Ouais.
Je suis fou de chocolat.
C'est ça.
Pour avoir cette idée.
Mais oui.
Mais oui, Salvador Dalí, il était né effectivement à Figueras le 11 mai 1904 en Espagne et décédé le 23 janvier 1989. Allez, c'est pas grave, on termine.
Il considérait que la gare de Perpignan était le centre du monde.
Absolument, dans le Roussillon.
C'est vrai.
On termine par un autre monument. Le 11 mai, c'est le plus triste anniversaire, c'était il y a 40 ans, de la disparition du roi du reggae Bob Marley. Il y a 40 ans, jour pour jour, j'ai une question pour vous, je vais vous donner trois possibilités, mon cher Bruno. Il était jamaïcain, hein, Bob Marley, mais quel pays d'Afrique le fascinait particulièrement au point qu'à la fin de sa vie, il en avait adopté la religion ? Réponse numéro 1, l'Éthiopie. Réponse numéro 2, l'Afrique du Sud. Réponse numéro 3, le Kenya, d'après vous.
J'ai envie de dire la première.
Bravo, c'est ça. Il avait même été faire un pèlerinage au pays à l'époque de l'empereur Haïlé Sélassié, justement, qui était aussi appelé Rastafari, personnage clé du mouvement Rasta. L'Éthiopie était le dernier pays, quasiment pas d'ailleurs, à ne quasiment pas avoir été colonisé en Afrique. Effectivement. Allez, restez en ligne, mon cher Bruno. Rappelez-vous les saintes glaces. Hein. Protégez vos courgettes ce soir si vous en avez, c'est important quand même. Écoutez bien Ami André, si c'est le cas. Et puis vous restez en ligne, on vous envoie un mug Sud Radio. Vous allez nous donner votre adresse avec Mélodie qui est au standard de Sud Radio. On vous embrasse.
Merci Bruno.
Et ne sortez pas en terrasse pendant les
merci. Merci à vous. Dans un instant, restez avec nous, c'est le grand débat des vraies voix. Des peines plus sévères pour les agresseurs de policiers, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex. Suppression des rappels à la loi, c'est ce que propose Gérald Darmanin. Agresseur de policiers, est-il utile de durcir les peines? 0826 300 300, vous votez sur les réseaux sociaux, vous dites oui pour le moment à 78%. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h07 sur Sud Radio, soyez les bienvenus. Les vraies voix sont de retour. Ce soir, vous êtes en compagnie de Philippe Bilger. Vous avez de la chance, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Caroline Pilastre, elle est là également, consultante dans le domaine du handicap visuel. Michel Pouzol, ancien député, porte-parole du mouvement Génération. Ça va toujours, ça va Philippe? Vous allez bien Philippe Bilger?
Très bien.
Bon,
très
bah,
bien.
Parfait, Caroline, voilà.
Parfait aussi.
Michel Pouzol qui réserve sa terrasse pour le mercredi. mercredi 19 mai. Tiens, vous avez réservé, Michel, vous faites quoi le 19 mai? Une petite terrasse, un petit cinéma?
Et oui, peut-être, oui. C'est possible. Une petite terrasse, il y a de grandes chances.
Ça, c'est
oui.
sûr. Je crois que tout le monde va être en terrasse. Oui. Je me demande comment on va faire.
Mais le problème, Philippe, ouais. c'est qu'il pleut le 19.
Oh, c'est ah bon pas vrai, justement, j'allais vous poser la question sur la météo.
Vraiment.
Oh non.
J'avais réservé, j'ai annulé.
Ah, c'est ballot. Mais vous savez que la météo...
On va avoir l'air malin avec nos cirés jaunes sur les terrasses.
La météo est un peu plus fiable à 3-4 jours. Ça peut peut-être changer d'ici là.
Oui, ça peut être fluctuant.
Ouais,
oui.
Bon, tiens, est-ce que vous savez pourquoi on parle beaucoup de la présentatrice du 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix, depuis hier? Caroline, vous le savez ou pas? Philippe,
elle
Michel.
Elle devrait pas. Elle devrait
pas quoi?
Animer un second tour?
Je sais qu'elle a eu un méga fou rire. Elle a eu un méga fou rire hier soir en plein journal et c'était très.
C'est vrai qu'elle ne fait plus le grand échec.
Pour elle, oui.
Et c'est vrai qu'elle a eu un fou rire alors qu'elle présentait le journal de 20h. Son caméraman a fait une chute et ça a fait beaucoup rire Anne-Sophie Lapix. Et c'est communicatif en plus, écoutez.
Moi, je l'ai vu en direct.
Une nouvelle tribune de militaire a été publiée par le magazine Valeurs Actuelles. Elle évoque, elle aussi, le délitement de la France, mais aussi le risque d'une guerre civile. Les signataires seraient des militaires d'actifs et non pas des retraités. Mais nous n'avons pas les noms. Ils sont restés anonymes. La ministre des Armées, Florence Parly, a dénoncé une grossière machination politique. Pardon.
Vous avez vu, c'est ça fait rire tout le monde. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a enchaîné sur Michel Fourniret.
Et elle a enchaîné avec brio, parce qu'elle est redevenue sérieuse sur Michel Fourniret. C'est un exercice quand même un peu difficile.
De m'avoir un fou rire dans un moment très tendu, en plus en direct, ça, c'est sûr que ce n'est pas évident, ça nous est arrivé à tous.
Ça
mais
arrive,
elle présente
arrive.
Le journal comme pour toi, Philippe.
Philippe Bidger, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un fou rire comme ça dans un tribunal, mon cher Philippe?
Non,
jamais.
Enfin, jamais en cours d'assises, mais j'ai une particularité avec l'un de mes enfants, Charlotte, quand elle était plus petite. Dans les moments les plus tristes, il suffisait que je regarde son visage pour que de manière irrépressible, j'ai un fou rire. Et c'était catastrophique parce que plus c'était triste, plus on riait. Alors j'ai préféré à un certain moment me distinguer de ma fille Charlotte.
Bon, alors...
En général, vous riez aussi lors des enterrements, c'est ce que vous disiez,
c'est aussi,
dans des moments
c'est
terribles.
Vrai, bah, c'est vrai.
C'est une manière d'extérioriser
c'est vrai.
Aussi.
Un peu une nervosité.
Exactement. Absolument.
Michel, un fou rire à l'Assemblée nationale face à un politique, lors de grandes réunions.
Je me rappelle un fou rire quand j'étais dans mon jeune temps, mon premier métier c'était animateur radio en 82 quand les radios ont été légalisées. Je me rappelle d'un fou rire pendant un journal effectivement aussi, où là j'ai pas pu reprendre l'antenne.
Ouais.
Tellement c'était catastrophique.
C'est terrible.
Et à l'Assemblée, c'est arrivé un soir où tout le monde a eu un fou rire. Je vais vous raconter un anecdote quand même.
Jean Lassalle avec Jean Lassalle.
Exactement. Ouais. Jean Lassalle monte en tribune en une soirée. Il était visiblement assez fatigué. Enfin, on sentait qu'il avait ou il avait pris un bateau. En tout cas, il tanguait un petit peu. Et il commence à faire un discours et on se rend compte très très vite qu'il ne sait absolument pas de quoi nous sommes en train de parler, que ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle depuis le début de la journée. Et les ministres se décomposent, les huissiers se décomposent et toute l'Assemblée part dans un fou rire et lui se lance encore plus avec plus de panache. C'était un moment assez surréaliste comme il y en a
Philippe,
pas beaucoup à l'Assemblée.
Oui, Philippe.
Philippe, j'ai eu des débuts de fou rire avec notre ami Philippe David.
Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai, oui. Ça c'est vrai. Qu'on salue d'ailleurs Philippe David. Voilà. Allez, dans quelques instants, et restez avec nous, le grand débat. Voilà, le grand débat des vraies voix. Des peines plus sévères pour les agresseurs de policiers. Suppression des rappels à la loi. Ça, par exemple, c'est ce que propose le ministre de l'Intérieur. Trouvez-vous ces mesures efficaces? 0826-300-300. Est-ce que ça va suffire? Vous votez sur Twitter et YouTube. On sera avec le magistrat Michel Dutrus à partir de 18h30 pour le grand débat des vraies voix. Mais tout de suite, place autour de table de l'actualité.
Apporte-moi seulement de quoi lire.
C'est un bon livre ?
Je sais même plus.
Ça m'embête un peu, ça.
Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là.
Le tour de table.
De l'actualité.
Voilà, et c'est tombé sur le livre d'Arthur Berdin, hein, Philippe Bidger.
En effet, Philippe, d'abord, évidemment, je lis pratiquement tous les essais politiques qui paraissent. Quand j'en suis évidemment informé, Arthur Berdin, j'ai beaucoup aimé son livre qui est à la fois tout simple et très bien informé. Parce que en réalité, le titre c'est « Lumière et mystère d'Emmanuel Macron ». Il pose une série de questions toute simple, presque familière. Emmanuel Macron a-t-il dépassé la droite et la gauche? Brigitte Macron a-t-elle une influence sur lui? Un certain nombre de questions que les gens se posent et ils tentent d'y répondre honnêtement, simplement, de manière informée et sans être péremptoire. C'est vraiment un très très bon livre.
Voilà, Arthur Berdoin, le livre donc sur Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de plateaux, hein, Arthur Berdoin. Il y dévale, hein, Philippe Bilger, il dévoile quelques petits secrets,
oui,
non, mais quelques petites anecdotes.
Oui, la chose la plus intéressante qui m'a plu, c'est que ça répond un peu à Édouard Philippe qui disait qu'en réalité c'est Emmanuel Macron qui lui avait dit de partir. Eh bien, Emmanuel Macron dit à Arthur Berdoin qu'en réalité, dès 2017, il aurait dit à Édouard Philippe qu'il serait un Premier ministre temporaire et qu'il partirait au bout d'un certain nombre d'années. Donc il y a une petite contradiction dont l'éclairage donné n'est pas inintéressant.
Ouais, alors, Caroline Pilastre, on est tous friands, hein, Michel Pouzol, de ces entretiens avec les chefs d'État, les ministres, les anecdotes, ça vous
c'est
intéresse?
C'est pas un entretien, hein,
non.
Philippe.
Bon.
Non, c'est un livre.
Hein, un livre.
C'est,
bon,
c'est un livre autorisé ou pas au niveau des réponses, hein?
Parce totalement. Que,
d'accord,
totalement.
Okay. Ah bon, donc voilà. Le staff de la Macronie a pu répondre aussi, j'imagine, parce qu'il y a eu un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois qui était très intéressant. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est une femme qui a fait pas mal de plateaux télé et justement qui revenait un petit peu sur le personnage complexe qu'était Emmanuel Macron.
Oui, il est très bon le bouquin. Très
voilà,
bon.
Et donc je voulais savoir si c'était assez ressemblant, parce que moi je l'avais lu celui-là, mais vraiment j'ai omis le nom de l'auteur. Et après, bon, on apprend des choses. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on rentre dans l'intimité. Parce qu'il se trouve que je connais, j'ai connu aussi certains politiques, alors pas forcément dans le staff premier très perso, mais j'ai entendu, j'ai vu certaines choses. Et si je devais écrire, par exemple, un essai, jamais je ne relaterais des choses très intimes. De cet ordre. Donc je voulais savoir si vous avez appris certaines anecdotes assez dérangeantes en lisant ce livre.
J'ai pas l'impression, hein. Philippe Bilger.
Pas du tout.
Donc ça reste assez en surface, en fait.
C'est très... Ça ne va pas dans la vie intime.
D'accord.
Sauf lorsqu'il est amené à s'interroger sur le rôle de Brigitte Macron auprès du président. Est-elle une première dame? A-t-elle de l'influence sur lui? Mais ça reste parfaitement décent tout au long du livre.
Bon, friand de ce genre de livre, Michel Pouzol?
Très moyennement. Moi, je fais partie d'une majorité parlementaire qui a beaucoup souffert de la passion exagérée, sans doute, du président de la République que soutenait François Hollande pour les journalistes et les écrits. Donc, je ne suis pas un fan, et j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais je vais faire un petit message à notre ami Philippe, parce que en fouillant dans ma bibliothèque cette semaine, j'ai retrouvé un livre de 1990 que je ne savais pas avoir, je me souvenais plus, qui était signé par un ami personnel, Joseph Veubré, et ça s'appelait Le besoin de justice. C'était des entretiens entre Claude Grelier et Philippe Bilger.
Et donc j'ai lu ça
il y a 30 ans, bien avant de m'engager en politique, et j'avais beaucoup aimé ce que vous disiez dans ce livre-là, mais vous étiez quasiment à gauche à cette époque-là.
Ah bon,
hein, dans les
mais moi, si je
mais il faut dire que dans la magistrature, on est vite considéré à gauche.
Hein. Je voudrais juste vous poser une question, puisque vous êtes le seul autour de cette table, Philippe, à l'avoir lu. Est-ce qu'on apprend vraiment des choses concernant le personnage d'Emmanuel Macron? Non, on n'apprend pas grand-chose, d'accord, ok.
Non, Caroline, mais on n'apprend pas quand on est soi-même, comme vous, comme Michel, un lecteur passionné par la chose politique. Vous voyez, je pense que des gens qui ouvriraient ce livre, qui ne sont pas au quotidien passionnés par la politique, apprendraient énormément de choses dans des synthèses qui sont très bien faites, très agréables à lire.
Voilà, le livre d'Arthur Berdoin, donc Emmanuel Macron, Vérités et Légendes. Dans un instant, la suite du tour de table de l'actualité, des manifestations de soignants aujourd'hui dans plusieurs villes de France, hein, Toulouse, Marseille ou encore Béziers, des soignants qui demandent entre autres, la revalorisation de leur salaire. Dans quelques minutes, on sera avec Lucie Lambert. Elle est infirmière en réanimation polyvalente au CHU de Toulouse. Voilà, et elle nous expliquera pourquoi elle a manifesté aujourd'hui. Lucie Lambert, dans quelques instants, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio, c'est avec Philippe Bilger ce soir, Michel Pouzol, Caroline Pilastre. On poursuit le tour de table de l'actualité des soignants qui ont manifesté ce mardi un petit peu partout en France, Toulouse, Marseille ou encore Béziers, pour réclamer entre autres la revalorisation de leur salaire, mais pas que. Lucie Lambert est avec nous, bonsoir.
Bonsoir
à vous, Lucie Lambert, infirmière en réanimation polyvalente au CHU Toulouse, membre du syndicat Sud Santé Sociaux. Ma chère Lucie, alors tout d'abord, pourquoi avez-vous manifesté avec vos collègues aujourd'hui un petit peu partout dans plusieurs villes de France, hein. C'est un peu passé inaperçu, c'est vrai. C'est pour ça que je suis content de vous avoir, Lucie Lambert, mais vous étiez des centaines de soignants à se rassembler et à manifester. Lucie Lambert, pourquoi ?
Alors en effet, nous étions 135 villes mobilisées avec plusieurs établissements partout en France, dans les grandes métropoles, mais aussi dans les plus petites villes. Donc nous manifestions pour une reconnaissance de la spécificité et des compétences liées à la réanimation, c'est-à-dire qu'être infirmière en réanimation, ça ne s'invente pas, et ça, on ne devient pas infirmière en 3 jours, ou être soignante, comme ça a été le cas pour de nombreuses et nombreux renforts pendant la crise Covid. Et donc, en plus de cette reconnaissance, une revalorisation salariale à hauteur des compétences qui sont déployées, avec une prime dédiée aux services et un dégel de la grille indiciaire pour l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.
Par exemple, qu'on ait un ordre d'idée, une infirmière en réanimation en fin de carrière, combien gagne-t-elle ?
On doit être à environ 2500, ouais. Au maximum. Quand elle est classe sup.
Et évidemment, ouais. Pendant cette crise du Covid, il manquait des lits, mais en fait, ce qui manquait surtout, c'était des infirmières en réanimation, parce que le gouvernement nous disait, mais on va installer des lits supplémentaires, sauf que le petit problème, c'est qu'il n'y avait pas les infirmières qui allaient avec, c'est ça, hein, Lucie ?
Tout à fait. Tout à fait. Puisque le décalage dans le temps va être important et qu'ils n'arrivent pas à recruter, en tout cas en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, c'est le cas. Il y a très peu d'attractivité, on n'arrive pas à fidéliser les personnes qui viennent travailler à l'hôpital.
Depuis la crise du Covid, j'ai entendu que beaucoup d'infirmiers et d'infirmières avaient décidé de se reconvertir, de changer de métier. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous connaissez des personnes dans ce cas-là à Toulouse, au CHU Toulouse, puisque vous y travaillez ?
Tout à fait. Alors qu'ils choisissent soit d'aller travailler dans le privé, mais plutôt pour des prestataires de services, hein, non vraiment hors soins, qui sont désabusés des conditions de travail au sein des services, soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs.
La manifestation donc aujourd'hui dans plusieurs villes de France, reconnaissance des compétences, revalorisation salariale. Michel Pouzol, c'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses, mais ça fait surtout des années qu'on le dit qu'il faut revaloriser les métiers de santé, on est dans une situation catastrophique en France. On ne trouve pas d'infirmières. Si vous allez dans la psychiatrie, c'est encore pire. On a un vrai déficit. On ne trouve plus de spécialistes. Il faut revaloriser ces métiers-là. Effectivement, ce sont des métiers durs. Sur les métiers, on le voit essentiel. S'il fallait une preuve par l'absurde, je dirais que le Covid nous l'a montré de plein fouet, et pourtant les choses ne bougent toujours pas. On n'est pas à l'abri de nouvelles... On est toujours dans une catastrophe sanitaire, mais on n'est pas à l'abri
d'une nouvelle vague.
De nouvelles vagues. Ouais. Et si on ne fait pas quelque chose de radicalement différent, et en revalorisant d'abord ces métiers-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer... On ne peut pas continuer à être un pays où nos infirmières et nos instituteurs, nos professeurs sont parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE, c'est une aberration et c'est une insulte à notre futur. Donc je comprends la colère de ces infirmières qui se battaient bien avant le Covid, il faut le dire. Ce qu'elles ont fait depuis un an, on les a admirées et à juste titre, toutes les professions de santé. Mais ça faisait déjà au moins 2-3 ans. Moi, je me suis battu à leur côté pour des hôpitaux, pour des maternités, etc. Pour le manque d'anesthésistes. Enfin, il y a tout un tas de problématiques qui sont incroyables. Notre système de santé va mal. Nos personnels de santé vont mal et à terme, c'est quand même nous qui finirons par aller très mal si on ne les prend pas en compte. Je ne comprends pas qu'on n'en fasse pas une cause nationale. Quoi. Ouais. Vraiment, c'est une urgence absolue et je comprends que ces personnels soient excédés, d'autant plus avec les efforts que toutes et tous ont fait cette dernière année, parce que eux, ils étaient vraiment au front, au quotidien. Nous, on a eu peur. Beaucoup ont attrapé la maladie, beaucoup sont morts. Nous, on a eu peur, mais eux étaient...
Ils étaient en première ligne, hein, première surtout ligne Lucie en permanence, qui était avec nous.
Et j'imagine la douleur, la violence, aussi, y compris psychologique, qu'elles ont dû subir, qu'ils doivent subir depuis un an. Ça me remet tout en cause, et si on ne les valorise pas, alors effectivement, c'est à désespérer le tout, et je comprends leur colère.
Philippe Bilger, on peut faire des économies économies sur la santé, non ? C'est choquant, des économies
alors,
sur la
moi,
santé.
Je voudrais poser une question un peu délicate à Lucie, bien sûr. Il faut revaloriser, qui pourrait dire le contraire ? Mais j'aimerais lui demander si elle a tout de même senti, au cours de cette terrible période, qui n'est pas terminée, à quel point la France, les citoyens, éprouvaient une immense considération pour les infirmières. Ça ne veut pas dire que ça suffit, hein, tout de même. Mais est-ce que vous l'avez senti, tout de même, Lucie ?
Alors, le soutien de la population, on l'a senti. On a été quand même applaudis tous les soirs à 20h. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la reconnaissance est toujours présente auprès de la population. Ça, c'est pas du tout un souci. Mais déjà, avant le Covid, il suffisait que je dise que j'étais infirmière pour que les gens me reconnaissent mon mérite. C'est pas vraiment le problème principal qui
j'ai
nous
bien
concerne.
Compris.
C'est qu'en fait, ça nous donne pas les moyens de travailler et en sécurité et d'assurer une qualité de soins que mérite chacune et chacun. Donc c'est beaucoup plus à ce niveau-là que l'on se bat aujourd'hui, et après un an de crise sanitaire, c'est d'autant plus criant qu'on n'a pas vu du tout d'évolution en fait. Il n'y a pas de prise de conscience, en tout cas politique, des enjeux liés à la santé.
Ouais. Caroline Pilastre.
Vous avez besoin d'autre chose que de remerciements. Vous êtes primordial. Il y a un moment donné, bien évidemment, qu'on doit vous augmenter, parce que sinon vous allez aller manifester sous les fenêtres de M. Véran. Pendant cette crise, vous vous rendez compte que beaucoup de vos collègues, enfin je vous inclus aussi madame, mais ce secteur a travaillé 12 heures quotidiennement. Ouais. En moyenne, il y a un soignant pour 4 malades. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre ces gens pour des personnes corvéables à merci, parce que ça n'est pas le cas. Ce sont des humains qui ont des familles, qui prennent des risques quotidiennement pour notre santé. Donc bien évidemment que vous devez faire partie des secteurs à augmenter au même titre que le reste pour moi
évidemment.
Du régalien.
Alors,
donc total soutien madame.
Lucie Lambert, le Ségur de la Santé a acté des augmentations. Est-ce que vous avez eu des augmentations ces derniers mois ? Oui, je crois, non ?
Oui, tout à fait. Alors après, ça correspond pas du tout au gel d'indice. Les syndicats, notamment Sud Santé Sociaux, réclamaient minimum 300 euros. Hein. C'est juste un retour sur ce dégel. Et on a eu 183 euros qui ne sont pas encore réellement inclus dans notre salaire. Donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner sur du long terme. Et quoi qu'il arrive, en fait, on est passé de la 28e à la 26e position des pays, enfin des infirmières payées en Europe. Donc ça reste
très faible. Merci à vous, Lucie Lambert, infirmière en réanimation polyvalente au CHU de Toulouse. Vous êtes membre du syndicat Sud Santé Sociaux. Les soignants qui ont manifesté donc ce mardi un petit peu partout en France. Restez avec nous, le grand débat des vraies voix. C'est la suite des peines plus sévères pour les agresseurs de policiers. Gérald Darmanin propose également la suppression des rappels à la loi. Est-ce utile de durcir les peines pour les agresseurs de force de l'ordre ? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, sur YouTube. Vous dites oui pour le moment à 77%. Appelez-nous. Mélodie, vous êtes en standard 0826-300-300 pour en débattre avec les vraies voix et avec le magistrat Michel Dutrus qui nous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h31, en réponse au meurtre du policier Éric Masson. Un hommage lui a d'ailleurs été rendu cet après-midi. Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé un durcissement des peines pour les agresseurs de policiers. Par exemple, la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité serait portée à 30 ans. Les réductions de peine pour les agresseurs de policiers seraient également très limitées. Et de son côté, Gérald Darmanin propose de supprimer le rappel à la loi. La loi ne se rappelle pas, elle s'applique, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Les syndicats de police, eux, sont plutôt dubitatifs. Est-ce que vous trouvez ces mesures efficaces ? Est-ce qu'il faut durcir la loi ? Pour les agresseurs de policiers, vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 78%. Évidemment, vous nous appelez, on vous attend pour réagir. 0826-300-300, c'est le grand débat des vraies voix.
Les policiers attendent une réponse de nos gouvernements, mais pas que. Les citoyens aujourd'hui sont inquiets.
Les responsables d'actes d'assassinat contre les policiers et les gendarmes seront traités comme ceux qui commettent des actes terroristes.
On a eu des propositions qui nous paraissent pour certaines concrètes, d'autres beaucoup moins.
Dans la loi que porte le garde des Sceaux en ce moment au gouvernement, nous mettons fin aux remises de peine automatiques.
Le sentiment qu'on a, c'est une prise de conscience du gouvernement.
Nous construisons des places de prison, vous avez entendu. Quand j'étais ministre des Comptes publics, on y a mis l'argent. Désormais, on y a trouvé des terrains et on les construit.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Le grand débat des vraies voix avec Michel Pouzol, Philippe Bilger, Caroline Pilastre et notre invité Michel Dutrus. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Monsieur Dutrus, délégué général du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Et ma première question, Michel Dutrus, avant de parler évidemment du durcissement des peines pour les agresseurs de policiers, cette proposition du ministre de l'Intérieur du gouvernement de supprimer les rappels à la loi. On rappelle que souvent ces rappels à la loi sont plutôt éducatifs, j'ai envie de dire. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose de les supprimer?
Alors, pour être tout à fait transparent et objectif, à cet égard, il faut rappeler que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait envoyé aux procureurs et aux procureurs généraux, le 4 novembre dernier, une dépêche où il excluait les rappels à la loi pour les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre.
Oui.
Bon, donc, en réalité, si vous voulez, la question se posait moins. Pour autant, cette circulaire, et nous l'avons critiquée, cette circulaire, en réalité, aboutissait à traiter toutes les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre en les disqualifiant, c'est-à-dire en les correctionnalisant, en les renvoyant devant les juridictions correctionnelles, alors qu'en appliquant un certain nombre de circonstances aggravantes, les auteurs se seraient retrouvés aux assises.
Mmh.
Donc c'est ça que nous avons critiqué. Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, pourquoi pas, mais il faut que vous sachiez aussi, et nos auditeurs peuvent l'entendre, qu'au même moment, effectivement, on nous dit on va supprimer les rappels à la loi, c'est très bien, mais il y a une circulaire, une dépêche exactement de M. Dupond-Moretti, qui est du 1er mars 2021 et qui, elle, prévoit que pour lutter avec efficacité ou avec l'efficacité que l'on imagine contre les bandes qui constituent le terreau des violences policières, la mesure préconisée par le ministre de la Justice, ce sont les stages de citoyenneté.
Oui. Oui, donc oui, bon. Tiens, qu'en pensez-vous, Michel Pouzol? Parce que c'est vrai que les rappels à la loi, les stages de citoyenneté ont des vertus très éducatives concernant les agressions de policiers. Est-ce que
non, mais on est, à mon avis, sur deux sujets différents, c'est-à-dire les agressions de policiers et on parle de.
Bah, quand
de
on agresse un policier, en général, on n'a pas un rappel à la loi.
Non, voilà, en général, c'est pas un rappel à la loi. Si c'est une agression, voilà, ça doit être effectivement une circonstance aggravante. Je ne sais pas si c'est allé, je suis pas juriste, mais il me semblait que c'était une circonstance aggravante. Ça doit l'être. Que l'on soit plus ferme, comme dans le cas de ce policier d'Avignon. Bien entendu, moi, je n'y vois pas d'inconvénient, notamment sur les peines de sûreté. Après, j'ai toujours l'impression que d'un drame qui existe et de choses où il faut agir, on tire des ficelles d'un peu partout et le rappel à la loi, enfin, ça me semble pas du même ordre. Donc j'ai l'impression qu'encore une fois, on veut apporter du rappel à la loi,
c'est quoi? C'est de l'annonce spectacle.
C'est de la com, tu penses?
Oui, on veut apporter une réponse rapide parce que l'émotion est là et on fait ce que faisait Sarkozy très bien à une époque, c'est-à-dire une émotion, une loi. Et finalement, on a un empilement de lois. C'est la même chose sur le terrorisme. On a un empilement de lois qui ne sont pas appliquées ou personne s'y retrouve et qui ne font pas avancer réellement les sujets. Enfin, à mon sens. Donc je pense qu'encore une fois, Monsieur Darmanin fait plus de la com. Alors, il a trouvé un bon slogan, il a une bonne punchline.
La loi, ça ne se rappelle pas, ça s'applique.
Voilà,
c'est
une punchline, enfin, c'est pas du concret. Et je pense que ça ne répond pas, malheureusement, à la situation que doivent affronter les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur le terrain.
Philippe Bilger, est-ce que ces mesures sont à la hauteur de ce qui se passe en ce moment?
D'abord, j'ai toujours été frappé par le fait que, de mon point de vue, hein, je parle avec beaucoup de modestie devant mon collègue qui appartient à un syndicat que je respecte. L'absence d'autorité de l'État va généralement de pair, paradoxalement, avec la frénésie législative et n'est pas contradictoire avec elle. Deuxième élément, j'ai toujours été très réservé devant les réactions qui consistaient systématiquement, face à chaque crime odieux, à dire on va régler le problème en augmentant les peines, alors que le volontarisme politique est forcément, à un moment donné, contredit par l'indépendance de la justice. Le Premier ministre peut dire ce qu'il veut, ça n'est pas lui qui déterminera les décisions des tribunaux, des cours d'appel et des cours d'assises. Et pour ma part, je souhaiterais évidemment que pour les actes graves, les policiers soient, comment dirais-je, pris en compte de la manière qui serait la meilleure, mais on ne le garantira pas demain, pas plus qu'on ne l'a garanti hier. Troisième élément, et j'ai fini, Philippe, je trouve qu'en revanche, les aménagements pénitentiaires, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit, sont très bons. Pourquoi pas 30 ans lorsqu'un accusé est aux assises, la peine de sûreté, et puis le, vous avez dit suppression des réductions de peine, mais véritablement, pas de nouveau comme de la poudre aux yeux pour que Dupond-Moretti fasse croire que tout à coup il n'est plus avocat.
Ouais, Caroline Pilastre, juste appelé, je vous redonne la parole, hein, Michel Dutrus.
Écoutez, Caroline. Les sanctions pour moi doivent être plus rapides. On parle de 6 mois plutôt que 18 mois. Je trouve que c'est une bonne avancée. Hein. Moi, j'ai envie de leur dire, il faut maintenant, en dehors de la théorie, faire de la pratique. Je veux leur laisser le bénéfice du doute parce que, évidemment, Monsieur Macron n'a pas fait grand-chose au niveau sécuritaire, mais il n'est pas responsable de ces dizaines d'années où il y a eu un laxisme de la part de la droite et de la gauche. Et pour moi aussi d'une partie de la magistrature. Je suis désolée, messieurs, si je vous blesse au niveau de votre corporation, mais il faut que les peines soient plus fermes, que les peines soient appliquées. Il y en a énormément déjà dans l'arsenal juridique qui ne sont pas appliquées parce que certains ne veulent pas ou trouvent des excuses de la compréhension. Stop au rappel à la loi. Stop à la culture de l'excuse et véritablement appliquons des peines à la hauteur des actes, comme ce qu'a vécu ce pauvre policier ou sa collègue il y a 15 jours. Parce que ça suffit. Et si ça continue comme ça, on ne va pas éviter une bavure.
Michel Dutrus, est-ce que c'est de la faute des juges ? Est-ce qu'on entend beaucoup ça ces dernières semaines, pas que pour les agresseurs de policiers, pour l'insécurité en général. Trop de laxisme, insécurité, c'est de la faute des juges. Comment vous le prenez, Michel Dutrus ?
Nous le prenons en renvoyant en quelque sorte la balle aux politiques. La politique pénale, elle est revendiquée par les ministres de la justice successifs qui ont été au pouvoir pendant une dizaine d'années. Leur axe, leur boussole était en réalité, comme l'a très bien indiqué votre correspondante à l'instant, en réalité, si vous voulez, de considérer que il fallait appréhender l'acte délinquentiel comme étant un problème pathologique, en quelque sorte. Et qu'à partir de là, il fallait appliquer un remède. Alors, si vous appliquez un remède, vous n'appliquez pas une sanction. Et ça, c'est la grande politique pénale qui a été appliquée pendant des années. Alors, elle continue encore maintenant. Je vais en prendre un exemple tout à fait simple. Alors qu'on découvre les effets, on ne peut plus nocifs, toxique, voire extrêmement dangereux de l'usage du cannabis, eh bien, on est en train de débattre en ce moment à l'Assemblée nationale d'une éventuelle légalisation du cannabis. Donc, vous voyez, on est dans la contradiction permanente, dans l'injonction contradictoire permanente. J'évoquais cela tout à l'heure, au moment où, effectivement, on nous indique qu'on va passer à 30 ans pour un certain mode de peine, j'y reviendrai d'ailleurs, et simultanément, il y a quelques semaines, le garde des Sceaux et envoie aux procureurs et aux procureurs généraux une dépêche indiquant que la meilleure réponse contre la constitution des bandes, c'est les stages de citoyenneté. Alors, pour en venir précisément à ces 30 ans, en réalité, ce n'est pas véritablement une innovation. Il faut bien indiquer et rappeler à vos auditeurs que l'assassinat d'un policier est déjà puni de la réclusion criminelle et d'une peine de 30 ans. Ça existe déjà, c'est déjà prévu. La seule innovation, bon, c'est pas une innovation de petite taille, mais quand même, la seule innovation consiste à l'étendre au meurtre, c'est-à-dire en excluant ce qui est, là par exemple, dans un cas un petit peu similaire à ce qui a été, ce qui s'est passé à Avignon, mais qui ne s'appliquera pas nécessairement, d'ailleurs, dans le cas présent.
Ouais. Agresseur de policier, est-ce utile de durcir les peines ? On va vous écouter dans un instant, 0826-300-300. David qui nous appelle de Toulouse, qui sera avec nous dans quelques instants. Oui, Philippe Bilger, vous vouliez rajouter ?
Non,
Philippe...
je voulais juste un mot. Évidemment, j'aurais tendance à dire que les rappels à la loi et les stages de citoyenneté, c'est à peu près un ectoplasme sur une jambe de bois déjà très infirme. Mais on est presque obligé aujourd'hui, compte tenu de la pratique judiciaire et surtout de la, des défaillances politiques, de dire on veut bien changer les, modifier les rappels à la loi à condition qu'on y mette quelque chose à la place. Pour l'instant, dans un système même infirme, les rappels à la loi peuvent parfois servir un petit quelque chose sur des sensibilités pas très fermes. Ça peut faire un petit effet.
Est-ce utile de durcir les peines pour les agresseurs de policiers? Vous dites oui à 86% sur le compte Twitter de Sud Radio. On va vous entendre, 0826 300 300. Bonsoir David.
Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir.
Bienvenue David. David, vous nous appelez de Toulouse. Allez-y David, on vous écoute.
Bon, mais moi je pense que on est encore devant un effet d'annonce de Monsieur Castex et de Monsieur Darmanin. Hein. Je pense qu'il existe déjà pas mal de peines existantes et qui ne sont pas appliquées. Pourquoi celle-ci le serait à nouveau? Donc je pense que c'est encore un peu de, un écran de fumée pour masquer ce qui n'a pas été fait. Alors, comme ça a été dit, pas seulement depuis ce mandat de Monsieur Macron, mais depuis bien avant. Donc voilà. Bon, j'entendais parler de stage de citoyenneté. Oui, ok, on est en plein dans le monde des bisounours. Je pense qu'à un moment donné, les sanctions, elles existent, il faut les appliquer. Et parfois, il faut même aller plus loin, c'est-à-dire une faute, une sanction. Et si on reprend malheureusement le cas du policier d'Avignon, on se rend compte que les présumés coupables ont 19 ans et 20 ans et déjà fortement connus des services de police. Donc il serait peut-être bon de revenir sur l'ordonnance de 45 et de pouvoir, à un moment donné, taper du poing sur la table et d'appliquer des sanctions. Une faute égale une sanction. Alors c'est pas forcément la prison, mais c'est pas non plus des stages de citoyenneté où on va leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait, rentrer chez vous, mais où on va les mettre devant leurs responsabilités, etc., etc. Voilà. Et j'entendais donc la suppression, les peines de sûreté de 30 ans. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis pour la suppression des peines de sûreté. Une perpète doit aller à perpète. Il n'y a plus d'histoire de peine de sûreté. À un moment donné, il faut comprendre qu'on a fait une faute qui est plus que grave. Eh bien, on doit la payer jusqu'au bout. Voilà. Il faut arrêter d'être... Parce que pour moi, c'est 30 ans, effectivement, c'est très long. Mais il y a toujours cet espoir. Celui qu'on a tué, lui, il n'a plus d'espoir et sa famille n'en a plus non plus. Donc, à un moment donné, il faut rentrer dans ce cercle-là.
Alors, on a beaucoup parlé du stage de citoyenneté. Michel Pouzol, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faudrait les deux? Pourquoi pas les deux? La sanction d'une part et l'éducatif en même temps?
Bien sûr.
Ça pourrait s'imaginer, ça?
Bien sûr qu'il faut et la sanction et de l'éducatif dans beaucoup de cas. Mais vous voyez ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi la complexité du citoyen face à la machine judiciaire qui est en face de lui, face à l'accumulation des lois. Monsieur le juge parlait de la différence effectivement entre un assassinat et un meurtre, hein, j'ai bien compris. C'est pas la même chose d'un point de vue juridique. Pour les Français qui regardent le journal de 20h, c'est la même chose, le même résultat.
Assassinat, c'est avec préméditation.
Exactement. Voilà. Mais donc, c'est pas le même système juridique qui se met en place, etc. On voit bien que tout ça est dans une complexité qui échappe aux individus. Et donc l'émotion, quand la compréhension technique de ce qui se passe est là, et que la réalité des faits est là, bien sûr, l'émotion prend le pas sur tout le reste. Et la décision politique, quand elle est guidée par l'émotion, moi je reste persuadé qu'elle est très mauvaise conseillère. J'ai du mal à penser qu'un type de 20 ans qui n'a pas peur d'un policier et qui n'a pas peur de lui tirer dessus et de le tuer, qui risque 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ça change quoi que ce soit. C'est bien ça le problème. Donc oui, il faut qu'on redonne des moyens aussi à la police d'intervenir. Il faut qu'on dise une bonne fois pour toutes qu'on a supprimé des forces de police un peu partout dans les territoires, qu'on les a retirés des quartiers et des villes entières, qui sont en nombre insuffisant, qu'on l'a fait depuis 15 ans, qu'on n'a jamais remis le nombre de policiers qui étaient au départ, et qu'il en manque. Il faut changer cette politique-là. Tant qu'on fera des gesticulations et qu'on ne remettra pas, on rouvrira pas des commissariats de proximité, qu'on remettra pas des hommes sur le terrain, alors tout ça, ce sera encore des vœux pieux. Et en même temps, il faut qu'on s'attaque à la problématique sociale de ces quartiers, réellement, pas en faisant du saupoudrage électoral. Alors, quand ça arrange tout le monde.
Michel Dutrus, une dernière question, hein, délégué général d'unité magistrat force ouvrière, les annonces donc de Jean Castex, des peines plus sévères, suppression de rappel à la loi peut-être, c'est ce qu'a proposé Gérald Darmanin. Est-ce qu'on vous a consulté? Est-ce que vous êtes concerté avant ces annonces? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis en...
Alors précisément, notre organisation Unité Magistrat Force Ouvrière déplore que, en réalité, aussi bien le Premier ministre que le ministre de la Justice n'aient pas jugé utile de convoquer les organisations syndicales de magistrats. Bon, ça nous paraît quand même étonnant, étant donné que nous sommes les acteurs principaux des nouvelles dispositions qu'ils envisagent de mettre en œuvre. Mmh. Alors, pour revenir sur ce qui vient d'être indiqué par votre dernier intervenant, nous, notre organisation, elle serait dans le sens, si vous voulez, de quelque chose de tout à fait différent. Il faut bien imaginer que actuellement, toutes les peines qui sont prononcées, qui sont de 1 an ou de moins d'un an, il n'y a aucune peine d'emprisonnement possible. Mmh. Ça, c'est pas du tout les magistrats qui sont pour quoi que ce soit, c'est ce qui a été voté par les hommes politiques. Mmh. Donc, voilà, de toute façon, il faut bien en avoir conscience. Donc, notre organisation, à l'inverse, elle pense que de courtes peines d'emprisonnement prononcées rapidement et immédiatement auront un effet dissuasif. Mmh. Bien au lieu, et deuxième chose, appliquer véritablement avec fermeté toutes les dispositions qui sont déjà dans le code pénal concernant la récidive, ce qui n'est pas le cas. Du tout actuellement.
Merci à vous Michel Dutrus, délégué général d'Unité Magistrat Force Ouvrière. Merci à David de Toulouse pour son témoignage au 0826 300 300. Agresseur de policiers, est-il de durcir les peines? Sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 88%. Des débats à retrouver évidemment en podcast sur le sudradio.fr, c'est notre site internet. Sur les applications, voilà, les plateformes, vous pouvez retrouver les podcasts de Sud Radio et sur notre chaîne YouTube. Tiens, un dernier mot pour vous dire que l'Assemblée nationale a voté contre l'instauration d'un passeport sanitaire. Voilà, le MoDem a voté contre et du coup, il n'y avait pas une majorité nécessaire. Voilà, c'est l'Assemblée nationale dit non pour l'instant au pass sanitaire. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Bilger, Michel Pouzol, Caroline Pilastre et Jean-Marie Bordry. Dans quelques minutes, ce sera le clin d'œil des vraies voix. Tout de suite. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all
about that bass, no trouble. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Avec Jean-Marie Bordry, Caroline Pilastre ce soir, Philippe Bilger, Michel Pouzol, le clin d'œil des vraies voix, alors qu'une bonne partie de la France s'apprête à revivre, alors dans un peu plus d'une semaine, tiens, jour pour jour, le 19 mai, le clin d'œil des vraies voix vous emmène à Toulouse, là-bas des comédiens diffusent une web-série pour créer du lien avec les commerces de proximité, les institutions locales, Jean-Marie.
Oui, ça s'appelle Demain en Rose. Rose avec un accent circonflexe sur le haut, comme dans sur le haut de Ville Rose, justement. Ce sont des vidéos de quelques minutes qui ont commencé pendant le premier confinement. À l'origine, c'était aussi pour soutenir les commerçants qui baissaient leurs rideaux. Exemple avec celle-ci.
Toulousaine, Toulousain, amoureux des tablées généreuses et des bons coups de fourchette, bienvenue dans notre belle Ville Rose. Située à quelques mètres du métro des Minimes, on découvre aujourd'hui la boucherie des copains. Ça tombe bien parce que c'est un très bon copain. Suivez-moi.
Justement, ils en sont à la saison 2 de la web-série qui a eu un succès remarquable, 200 000 vues sur Internet, sur YouTube notamment. Et aujourd'hui, ils font découvrir notamment des grandes institutions de la ville de Toulouse, comme la dernière vidéo en date qui est la Cité de l'Espace. Bonsoir à vous, Thomas Grégo Tricouard.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes comédien, ben vous aussi, hein, vous étiez dans la même situation que les gens que vous filmiez au début, c'est-à-dire que vos salles étaient fermées, vous avez baissé le rideau au début. Vous êtes l'initiateur de cette série Demain en Rose, justement. Est-ce que vous attendiez à un tel succès?
Franchement, non, parce que c'est une idée qui est née enfermée chez moi, puis qui a... petit à petit émergé, grandi, puis de vidéo en vidéo, accompagné par mes chers compères de l'agence des temps digitales qui m'accompagnent et qui me filment, nous avons vu les vidéos se partager de plus en plus et une bonne surprise est arrivée.
Ouais, vous avez représenté, en tout cas, ou présenté aux Toulousains qui ne les connaissaient pas, des barbiers, des bouchers, la Cité de l'Espace aussi. C'était quoi l'objectif au début? C'était de faire sortir les Toulousains qui ne pouvaient plus sortir de chez eux?
L'objectif vraiment, c'était, faut se remettre dans le contexte du premier confinement, je me baladais dans cette ville rose qui est ma ville de cœur où je suis né et je ne reconnaissais pas l'ambiance typique de Toulouse et je me suis dit avec mes amis des ans digitales, on s'est dit allons à la rencontre des commerçants locaux qui font vivre justement la ville et permettons aux Toulousaines et Toulousains de découvrir ou redécouvrir ces commerces qui font que Toulouse et la ville qu'on aime tant.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette saison 2? Je le disais, là, vous faites découvrir des institutions, la Cité de l'Espace, vous parlez de Thomas Pesquet, par exemple. Vous aimeriez bien, d'ailleurs, faire une vidéo avec Thomas Pesquet. Réouverture des terrasses, et Dieu sait s'il y en a à Toulouse, dans la Ville Rose, la semaine prochaine, le 19. Vous avez prévu un événement particulier?
Alors, ce qu'on prévoit pour cette saison 2, c'est toujours, comme la saison 1, le soutien aux commerçants locaux, avec évidemment... on va parler des terrasses, mais plein d'autres commerces. Et puis, la petite nouveauté pour cette saison 2, c'est la découverte de lieux culturels, comme on a vu la Cité de l'Espace. On va aller voir des musées, rencontrer aussi également des artistes et des sportifs qui font rayonner notre belle ville.
Mmh. Oui, exactement, et qui sont privés de sport pour les uns, privés d'art ou presque, ou d'exposition pour les autres. En ce moment, c'est vrai que toute la France tourne un petit peu en rond depuis presque un an. Vous avez changé du coup presque d'activité depuis le premier confinement, la fermeture des salles. Les salles vont finir, on vous le souhaite, hein, par rouvrir. Est-ce que vous allez y retourner ou vous allez continuer à faire ces vidéos justement?
Bah écoutez, moi je suis vraiment aux prémices de ma carrière de comédien, je suis encore en formation au cours Florent, je n'ai pas eu encore l'occasion de monter sur scène, et ce projet de Main Rose est l'opportunité pour moi d'avoir un projet concret devant une caméra, et je vous avoue que le plaisir que je prends avec l'équipe de rencontrer toutes ces personnalités qui sont derrière ces commerces me donne envie de continuer, donc... On va voir comment va se passer cette saison 2 et puis on va petit à petit évoluer et voir ce qui se passera ensuite.
En tout cas, on souhaite un magnifique déconfinement progressif à tous les Toulousains. Dieu sait s'il y en a qui ne sont pas faits pour être confinés très longtemps. C'est quand même notamment les Toulousains. Merci à vous et bravo, surtout Thomas Grégo-Tricoire. Comédien, auteur de la série Demain en rose. Vous pouvez retrouver tous les épisodes. Il y en a à peu près toutes les semaines. Tous les combien vous diffusez à peu près?
Justement, là, on est parti pour 2 mois de diffusion toutes les semaines sur Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et
voilà. Je peux vous poser une petite question, parce que vous allez dire que mon esprit est mal tourné. Mais quand vous parliez de sportif, de lieux culturels, de commerce, est-ce que vous avez pensé à vous intéresser au club libertin de la ville, puisque on en parlait tout à l'heure?
On en revient.
Par exemple. Oui.
Alors, voilà un bon sujet qu'on n'avait pas noté.
Ça peut vous donner une idée pour une
autre
vidéo.
C'est cadeau, je viendrai vous aider à tourner si vous le souhaitez.
Merci, voilà, j'allais vous dire...
Vous ferez du corps à corps.
Exactement.
En tout cas, bravo pour votre démarche, hein, c'est une super initiative.
Bravo à vous.
Faites pas attention à l'humour de Jonard, le supporter clermontois qu'est Michel Pouzol, ça ne pouvait venir que de cela.
C'est que de l'amitié avec les Toulousains.
C'est que de l'amitié avec les Toulousains, en tout cas. Merci à vous, Thomas Grégo-Tricoire, je le rappelle. Demain en rose, avec cette ère de la vie en rose qu'on entendez aussi en sourdine sur tous les réseaux sociaux.
Et merci à vous, dans quelques instants, les vraies voix qui font bouger la France et les voix de l'emploi. À tout de suite.